Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique. À l'heure de la construction tous azimuts de murs frontaliers, petit tour du monde des ponts, à la fois lieu de migration et point de contrôle, le pont sépare et unit en même temps, construction qui permet de franchir un obstacle, il symbolise l'ouverture. Là où le mur représente la fermeture, l'isolement et le repli sur soi, lieu de passage, le pont ne se révèle cependant pas toujours trait d'union. Regard sur la place des ponts dans les zones de crise et dans les processus de paix, leur impact sur la vie quotidienne des populations qui les empruntent. Sont-ils véritablement des liens ou renforcent-ils au contraire la séparation déjà existante? Souvent première cible d'un conflit, leur reconstruction est-elle facteur de réconciliation? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Alexandra Novoselov, politologue, chercheuse invitée à l'International Peace Institute de New York, également chercheuse associée au centre Thucydide de l'Université de Paris Panthéon-Assas, auteur de plusieurs ouvrages, Des murs entre les hommes, par à la documentation française, et le dernier, Des ponts entre les hommes, aux éditions du CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Et Michel Fouché, spécialiste des frontières, géographe et diplomate, titulaire de la chaire de géopolitique appliquée au Collège d'études mondiales, auteur de nombreux ouvrages également, dont Le retour des frontières, également paru aux éditions du CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Vous vous êtes intéressé, Alexandra Novoselov, à 9 ponts situés en zone de post-conflit ou de crise et qui franchissent des frontières entre la Moldavie et la Transnistrie, entre la Chine et la Corée du Nord, Géorgie, Abkhazie, Jordanie, territoire palestinien, Grèce, Turquie, États-Unis, Mexique, jusqu'aux confins du Sierra Leone, du Libéria et de la Côte d'Ivoire pour approcher les ponts de l'Union du fleuve Mano. Autant de lieux que vous avez parcouru à la recherche d'une réponse sur la place des ponts dans les zones de crise et dans les processus de paix et leur impact sur la vie quotidienne des populations qui les empruntent. Le pont comme vecteur de relations internationales, quelle place pour lui dans la géopolitique mondiale?
La place, alors c'est vrai qu'elle est pas, elle est à la fois évidente et puis à la fois un peu, elle est pas vraiment traitée dans ce contexte-là, et c'est pour ça que on est parti en fait de la phrase d'Isaac Newton qui avait été un peu l'introduction du livre précédent sur les murs, c'est-à-dire les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts, et je me suis demandé dans ce nouveau livre si c'était le cas et si le pont était toujours un trait d'union comme vous disiez, ou s'il pouvait être rester un facteur de blocage, maintenir la séparation. Et on voit qu'effectivement les choses sont pas si évidentes que ça, c'est-à-dire que c'est pas simplement quelque chose qui unit. Il peut effectivement maintenir la séparation et donc être un facteur de blocage d'un processus politique donné.
En tout cas, grande complexité finalement, Michel Fouché, avec cette sorte de contradiction. Le pont, là où les frontières existent, et parfois des murs aussi, et le pont passant au-dessus des murs. Voilà, une certaine contradiction, un paradoxe en tout cas.
Oui, c'est l'un des grands intérêts de ce livre qui est vraiment formidable, je dirais encore plus élaboré que le précédent, parce que c'est en effet un objet plus complexe. Un mur, c'est visible, le message est clair, c'est une figure de l'interdiction. Le pont peut fonctionner aussi comme une figure de l'interdiction s'il est fermé, ou encore plus s'il est détruit. C'est pas tout à fait un hasard si les nationalistes croates de Bosnie-Herzégovine ont tiré un jour à coup de canon sur ce fameux pont sur la Drina, magnifique pont ottoman du 15e siècle, pour marquer la rupture entre les deux rives, c'est-à-dire en fait entre les deux communautés, rupture dont Alexandra Novoselov nous montre par son enquête dans les différents quartiers qu'elle demeure, c'est-à-dire qu'ils ont gagné d'une certaine façon en détruisant ce pont, même s'il a été reconstruit par l'UNESCO. Mais je suis parti dans la préface de cette remarque tout à fait extraordinaire d'Eri De Luca, qui est un homme dont la démarche un peu
auteur italien
anthropologique ressemble beaucoup à celle d'Alexandra Novoselov. C'est un travail d'abord de géographie humaine avant d'être un travail de géopolitique, peut-être on peut y revenir tout à l'heure, parce que les ponts télescopes scope un peu toutes les échelles. Alors, Eri De Luca écrit dans Sud, Sur, qui est dans la série littéraire de l'hebdomadaire Le 1, en mai 2016, c'est ce paragraphe extraordinaire pour moi, surtout quand on le traduit en italien dans l'oreille, le pont est une machine cordiale. Le pont est une machine cordiale. Traduisez ça en italien, vous verrez, ça sonne encore plus. Elle réunit les rives, elle enjambe les rivalités. Toutes ces formes me plaisent. En tant que spectateur du film Le pont de la rivière Kwai, je crois avoir été le seul à souhaiter l'échec de son sabotage en Birmanie. Mon premier convoi organisé durant la guerre en Bosnie a eu lieu aussitôt après la destruction du pont de Mostar en 1993. Du sommet de son arche haute de plus de 10 mètres, ont plongé pendant des siècles des générations de garçons pour se soumettre à la traditionnelle épreuve de courage. Et c'est par le pont de Mostar que démarre l'étude du premier cas du livre d'Alexandra Novoselov.
Monsieur De Luca, qui justement dans ses ouvrages évoque beaucoup les questions migratoires, mais à une toute petite échelle. Alexandra Novoselov, dans son propos introductif à votre ouvrage, Michel Fouché divise en quatre catégories finalement les ponts que vous analysez, en leur donnant un spectre, l'un géopolitique, ça c'est valable pour le pont entre la Chine et la Corée du Nord, la frontière entre l'Afghanistan et le Tadjikistan, que l'on retrouve peut-être aussi dans une autre catégorie, c'est celle économique, puisque on le verra, la Chine va s'en servir pour la route de la soie. Analyse géostratégique d'autre part, le pont entre la Jordanie et les territoires de Cisjordanie, la Transnistrie et la Moldavie, la Géorgie et l'Abkhazie. Données de l'économie régionale avec le Rio Grande, le Rio Bravo, là on est à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, et je le disais, catégorie dans laquelle on peut aussi placer la frontière afghano-tadjique avec le projet chinois, et puis de la sortie de des guerres civiles, ça c'est l'union du fleuve Mano, et des flux migratoires, le fleuve Evros, et puis là aussi le Rio Grande. Vous aviez cette analyse-là avant même de démarrer votre projet, ou tout cela vous est apparu au fil du temps?
Non, je crois que ça s'est apparu au fil du temps. Je crois que le premier réflexe, c'était effectivement de regarder des situations de crise, des situations de frontières aussi. Et c'est vrai que, bon, j'avais déjà, quand j'ai fait les murs, j'avais déjà dans l'idée de faire une suite sur les ponts, parce que bon, il y avait toujours cette dichotomie en quelque sorte. Et puis bon, j'avais déjà regardé du côté de la Corée du Nord et de la Chine, bien entendu le pont Allenby entre la Jordanie et les territoires palestiniens occupés, que j'avais passé plusieurs fois, et là il y a on sent une vraie tension, on sent une vraie particularité pour traverser ce pont. Et bien entendu, j'avais déjà passé ces ponts entre les États-Unis et le Mexique sur le Rio Grande. Donc voilà, j'avais cette idée pont-mur. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que cette contradiction quand même incroyable, et de voir qu'est-ce qu'elle signifiait sur le terrain. La démarche a été en quelque sorte la même, c'est-à-dire que c'est un livre de texte géopolitique, mais aussi de texte qui rend compte des voyages que j'ai faits, des photos, et d'aller au plus près des populations pour voir comment elles vivent ces situations-là, qui sont entre crises, conflits larvés, conflits qui n'arrivent pas à se résoudre. Et puis aussi, l'intérêt pour moi, ça a été d'aller dans des zones qui étaient peu connues, là où les journalistes vont peu, et de voir ces marges du monde, en quelque sorte, qui sont aussi dans un monde globalisé, qui gagnent à être connues. Et puis, c'est vrai qu'on a toujours un peu peur d'aller dans ces marges du monde. On nous dit, bon, c'est dangereux, etc. Et en fait, d'y aller, vous réalisez qu'en fait, les gens ont les mêmes préoccupations que nous, qu'ils essayent de joindre les deux bouts, comme beaucoup de gens en France et ailleurs. Et donc, c'était ça aussi qui était intéressant.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Alors, marge du monde, je rebondis sur ce que vient de dire Alexandra Novoselov. C'est vrai, Michel Fouché, que quand l'on parle de géopolitique, on a un peu tendance à voir les choses depuis le ciel. Là, c'est une vision terrestre qui apporte cette dimension que vous évoquiez précédemment quant à la géographie humaine.
Oui, je crois que depuis plusieurs années, le mot géopolitique est devenu très invasif. Il est employé à tort et à travers, synonyme de relations internationales, et on a oublié le géo en cours de route. Et ce qui est restitué dans cet ouvrage, qui est d'abord, je dirais, un ouvrage de géographie humaine. Alors, on voit que l'auteur, Alexandra Novoselov, elle-même, acheminée, je ne veux pas me mettre à sa place, mais partant d'une expérience ancienne et antérieure de travaux sur les crises et sur les phénomènes de sortie de crise, le fait d'aller sur place oblige à un changement d'échelle. C'est-à-dire, on est sur terre, on est les pieds sur terre, même au bord d'une rivière, et là, on découvre la vie quotidienne, les petites stratégies de contournement, les nostalgies, les contacts qui sont maintenus, y compris les discussions avec les gardes frontières, y compris de deux pays adverses. On se parle, hein, on se parle comme dans le pas suspendu de la cigogne. Et il y a un adjectif qui revient souvent dans les témoignages de discussions que l'auteur a eu avec ses frontaliers, c'est le mot « vital ». Comme si ce pont était une artère vitale, à la fois symbolique. Et donc ça, c'est tout à fait nouveau dans cette approche. Et ça vaut, je dirais, qu'il y ait libre circulation ou qu'il y ait tension. Le bon exemple, c'est le pont sur l'Ibar à Mitrovica, où finalement, il y a des échanges, même si dans les capitales, il y a des invectives. Alors c'est vrai qu'en même temps, crise ou pas, les frontières, par définition, sont le périmètre d'une souveraineté, d'un État ou d'une région en sécession. Donc ce sont des périphéries. Et comme le note l'auteur, c'est un monde de perdants. Donc ils sont perdants parce qu'il y a des crises, ils sont perdants quand les liens sont coupés et parce qu'ils sont loin du centre. Mais au fond, ça les rassemble, ces frontaliers. Et je trouve que ça, c'est vraiment une dimension qui est liée naturellement à ce travail d'enquête qui a été mené au plus près du terrain et d'entretien. Et le premier cas cité relate justement ces entretiens à Mostar, des deux côtés, où survivent ces divisions symbolisées par la destruction du pont en 93. Ça survit. Et malgré les efforts, l'argent de l'UNESCO, de l'Union européenne, ça m'a beaucoup marqué. Les gens sont séparés. Autrement dit, les nationalistes ont gagné. Ils ont séparé les communautés. Et le pont est bien entendu, et Michel Serres en parle beaucoup, un symbole, hein, un symbole justement du lien qu'il faut reconstituer. Et je pense que l'autre apport de ce livre, mais vous allez en parler, la deuxième partie, c'est toute la scénarisation. Qu'est-ce qui peut se passer?
Voilà, on y viendra un petit peu plus tard peut-être. Alors finalement, j'ai cette question, Alexandra Novoselov. C'est vrai que vous parlez, vous êtes allé dans les marges du monde, aux confins de régions un peu oubliées, où les conflits sont gelés depuis des années. On pense à la Transnistrie et à la Moldavie, à la frontière entre la Géorgie et l'Abkhazie, bien sûr, entre la Jordanie et les territoires palestiniens. Avec quelle idée êtes-vous parti et qu'est-ce que ces rencontres avec ces marges du monde ont modifié dans votre vision des choses ?
Alors, je suis partie, bien sûr, avec l'idée de comprendre, de voir, de comprendre qu'est-ce qui se passait dans ces zones-là, de comprendre aussi quels étaient les facteurs qui empêchaient de dépasser les traumatismes, le conflit, parce que comme pour le livre précédent, l'idée c'était aussi de non seulement de décrire ce qui se passait dans ces zones, mais aussi d'esquisser quelques voies de règlement possible, hein, ou en tout cas de montrer qu'est-ce qui bloque. Donc c'est ça qui m'a poussé à aller vers ces zones-là. C'est vrai que encore une fois, l'inconnu, les zones qui sont peu où il y a très peu de reportages, sur lesquelles il y a très peu de reportages, c'est d'autant plus intéressant, si je puis dire. Voilà à peu près l'angle sur lequel je suis partie. Oui.
Michel Fouché, on l'a dit, vous en avez parlé, les fonctions du pont sont changeantes. La valeur du pont, elle est généralement positive. Je dis bien généralement, parce que vous l'évoquez pour le pont de Mostar, par exemple, qui est là toujours pour rappeler ce qui s'est passé. Il y a aussi ce qu'évoque Alexandra Novoselov à propos du pont sur le fleuve Mano, où Alexandra évoque les tragédies qui s'y sont déroulées, les ponts qui ont servi à des pendaisons, et la mémoire des populations est là. On doit dire que quand on franchit ces ponts, je pense que voilà, on ne les franchit pas impunément et que beaucoup de choses se passent. Et puis il y a les effets inattendus, là aussi, qu'Alexandra évoque, et notamment ce constat qu'en permettant l'ouverture, le pont peut aussi rendre moins pressante la recherche d'une solution. Michel Fouché.
Ah oui, ça c'est assez complexe. Bah, parler de valeurs positives, oui, c'est la raison d'être du pont, c'est le passage. Alors, le meilleur exemple en termes de symbole, c'est le pont entre Strasbourg et Kehl. Le Rhin fut une ligne de front, aujourd'hui c'est une frontière ouverte, on ne s'arrête pas, il n'y a plus de contrôle, on n'a même pas besoin de changer de l'argent. Et ça s'appelle le pont de l'Europe. Donc là, c'est en quelque sorte un idéal type, mais l'analyse monographique de l'union du fleuve Mano, c'est tout à fait passionnant, parce qu'on voit très bien là comment les interlocuteurs africains que Alexandra Novoselov a rencontrés ont une vraie conscience de la symbolique. Et donc, d'autant plus qu'il y a très peu de ponts dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Il y en a même qu'un seul, et donc ils ont en quelque sorte géographisé leur accord pour faire fonctionner des unités conjointes de sécurité, de restauration de la paix. Ça, on est là dans l'autre domaine de spécialisation de l'auteur, les processus de sortie de crise et de retour à la paix. Avec des systèmes de médiation, des systèmes d'alerte, etc. Donc c'est un exemple encourageant qui montre que rien n'est jamais perdu.
Alexandra Novoselov.
Ce que j'ai voulu aussi montrer par ces exemples-là, c'est que la paix, elle peut être certes faite de manière globale, stratégique, si on peut dire, par des accords de paix, etc., mais qu'elle est aussi locale. Et qu'il y a aussi des initiatives qui sont prises au plan local pour justement faciliter le règlement de petits conflits, par exemple, dans l'Ouest ivoirien. Le vrai problème, c'est le problème foncier. Et donc, il faut que les gens se parlent. Et il y a effectivement cette organisation qui existe, l'Union du fleuve Mano, qui a mis en place des petites équipes d'alerte précoce et qui sont concrètement des gens référents qui vont voir, qui se réunissent de manière régulière avec tous les corps constitués, comme on appelle ça là-bas, et avec les chefs de village pour déconflicter en amont tout petit problème qui pourrait dégénérer. Et c'est ça aussi qui était intéressant, c'est de montrer que la paix, elle se fait au plan local avant tout. Enfin, aussi, je veux dire.
Pas seulement aux Nations Unies à New York.
Pas seulement dans des grandes conférences de paix.
Ce que vous évoquez là, c'est finalement ce décalage entre les centres de pouvoir, d'une certaine manière, et ce qui se passe localement, à ses confins. Ce sera intéressant de le développer, peut-être dans la deuxième partie de l'émission, avec des exemples comme celui de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, où les décisions vont être prises à Washington, avec ce projet de construction du mur. Et bien localement, les choses se passent un petit peu différemment. C'est ce que nous verrons tout à l'heure, dans 10 minutes. Géopolitique, nous retrouvons nos invités Alexandra Novoselov et Michel Fouché dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique à l'heure de la construction tous azimuts de murs frontaliers, petit tour du monde des ponts avec nos invités Alexandra Novoselov, politologue, chercheuse invitée à l'International Peace Institute de New York, également chercheuse associée au Centre Thucydide de l'Université de Paris Panthéon Assas, auteur de plusieurs ouvrages, Des murs entre les hommes paru aux éditions de la Documentation française et tout récemment Des ponts entre les hommes paru aux éditions du CNRS et Presse des ponts. Et Michel Fouché, spécialiste des frontières, géographe et diplomate, titulaire de la chaire de géopolitique appliquée au Collège d'études mondiales, auteur également de nombreux ouvrages, dont Le retour des frontières, paru aux éditions du CNRS. Nous évoquions, Michel Fouché, dans la première partie de l'émission, ce décalage qu'évoquait Alexandra Novoselov entre le centre du pouvoir qui décide de la construction du mur ou de frontières vraiment très fermées, très, très imperméables, et puis finalement, c'est les organisations locales qui fonctionnent sur un autre registre, et je pensais notamment à ce qui se passe entre les États-Unis et le Mexique, Michel Fouché.
En regardant de près cette affaire de prolongation de la clôture sur un tiers de la frontière entre États-Unis et Mexique, puisqu'elle a été commencée à l'époque de Bush Junior par le président américain actuel, je suis tombé sur une étude du Pew Research Center qui montre que quand on est républicain à Washington, on est en faveur d'une rallonge budgétaire pour ce programme coûteux de mur, mais quand on est sénateur ou représentant républicain de comté frontalier dans le sud de l'Arizona ou du Nouveau-Mexique, on est contre ce durcissement. Pourquoi ? Parce que localement, on sait que la frontière, exprimée par le pont, est une ressource. Le pont symbolise le fait que la frontière est une ressource. Pas pour les trafiquants, mais parce que c'est une interface entre deux systèmes différents, monétaires, économiques, de services. Il y a des opportunités des deux côtés. J'ai rencontré des gardes-frontières américains de la Border Patrol qui vivaient de l'autre côté du pont, du côté mexicain, parce qu'on vit mieux, ou qui font soigner les dents. Et par contre, vous avez des Mexicaines qui vont accoucher au côté nord pour assurer l'avenir de leur progéniture. Ouais. Et donc, le pont est une ressource. C'est quelque chose qu'en Afrique, on a parfaitement compris depuis le début. C'est une façon de subvertir les frontières. Le pont est le symbole de cette ressource.
Alexandra Novoselov.
Oui, Laredo, qui est une ville frontalière au Texas, c'est le troisième port d'entrée commerciale des États-Unis, après New York et Los Angeles. Parce que vous avez tout le trafic qui se fait au moyen de camions qui remonte depuis le Mexique et avant vers les États-Unis. Donc ça montre à quel point cette région-là en particulier est dynamique. Elle a eu un taux de croissance qui est bien supérieur à tout le reste des États des États-Unis. Donc ça montre la vitalité de ces zones frontalières. Et ce qui se passe sur cette frontière-là est pas unique. On voit que c'est vrai, le pont est aussi un moyen de commercer, de désenclaver. Et donc on le voit sur la frontière entre l'Afghanistan et le Tadjikistan, où la construction de ces ponts a été un véritable projet non seulement économique, mais aussi de désenclavement de ces régions très pauvres, notamment côté Afghanistan, au niveau du Badakhshan, etc.
On reparlera de la frontière entre l'Afghanistan et le Tadjikistan. Juste, je voudrais approfondir un tout petit peu la question de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Alexandra Novoselov parlait de contradictions. C'est vrai, Michel Fouché, que finalement, cette frontière entre les États-Unis et le Mexique, elle est devenue plus compliquée à franchir depuis l'ALENA, depuis 1994, qui est quand même ce grand marché nord-américain qui réunit les États-Unis, le Canada et le Mexique. On fait un grand marché et on verrouille un petit peu plus les frontières. Et pour rebondir sur ce que vous évoquiez précédemment sur la frontière ressources, c'est vrai que beaucoup de localités du sud des États-Unis, proches de la frontière avec le Mexique, vivent précisément de ces allées et venues de Mexicains.
Il y a 48 villes jumelles et à peu près 30 millions d'habitants, du Pacifique à l'Atlantique. C'est un cas unique au monde. On le retrouve dans le sud de l'Ontario, dans la région de Windsor.
Canada.
C'est devenu une région en soi. C'est-à-dire la frontière a créé une région. C'est une interface régionale tout à fait extraordinaire. 1,5 milliard de dollars d'échanges commerciaux par jour. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on pense à Washington. Donc, le projet du président américain est absurde. Complètement absurde, et il se tire une balle dans le pied puisqu'il va mettre en difficulté les industries américaines qui ont des sous-traitants de l'autre côté de la frontière.
Alexandra Novoselov.
Oui, ce qui est aussi très paradoxal, c'est-à-dire que d'une certaine manière, les ponts sont là pour faciliter le commerce, et quand on interroge les gens sur place, tout leur objectif, c'est de réduire le temps de passage des camions. Donc il y a tout un système très sophistiqué électronique pour que les camions passent le plus rapidement possible cette frontière. Mais en même temps, ces ponts, qui sont les premiers ponts, ont été des ponts qui étaient dans la ville, dans les centres-villes de ces villes frontalières, c'est devenu pour les gens des goulots d'étranglement, des points vers lesquels on est obligé de converger pour passer la frontière. Parce que le mur est là pour vous empêcher de la franchir ailleurs. Et donc, avec un système de visa assez compliqué, avec des gardes frontières qui sont pas forcément très sympathiques au point de passage. Et donc, il y a une espèce de paradoxe total, et que le renforcement du mur est le reflet de cette volonté de réduire les passages des personnes.
C'est ça, on est dans le libre circulation des marchandises.
Exactement.
Mais pas libre circulation des personnes.
C'est la problématique du Brexit et de la Manche. Exactement la même chose. Il faut que les capitaux, les services et les biens circulent, mais surtout pas les travailleurs dont on a par ailleurs besoin. Et ça bute là-dessus pour des raisons idéologiques. Washington, Londres, chez les conservateurs, même combat, même idéologie du repli.
Alors, on va partir un petit peu ailleurs. Je pense, et vous en faites tout un chapitre, Alexandra Novoselov, à la frontière entre la Chine et la Corée du Nord. Alors, c'est vrai que, vu de loin, la Corée du Nord, on la voit totalement verrouillée de toutes parts, aussi bien au sud, dans sa frontière avec la Corée du Sud, que dans sa frontière avec la Chine. Mais en fait, il y a quand même des ponts. Il y a des zones économiques privilégiées installées en Corée du Nord. Bref, entre la Chine et la Corée du Nord, ça circule. Est-ce que ça laisse envisager quelque chose quant à l'avenir de la Corée du Nord, Alexandra Novoselov?
Alors, là aussi, paradoxe, c'est-à-dire que les ponts sont là pour montrer tout le commerce qui existe entre la Chine et la Corée du Nord, en particulier pour la survie du régime. Et c'est là aussi où on voit toute la difficulté de mettre en œuvre les sanctions qui ont été décidées récemment par le Conseil de sécurité. Dandong, la ville qui est la grande ville frontalière sur cette frontière qui fait plus de 1000 km de long, il y a un pont en particulier où transite 80% du commerce entre les deux pays. Et là, bon, c'est vrai que les sanctions ont ralenti énormément ce commerce, mais il peut pas complètement s'arrêter. Et puis, il faut dire qu'il y a aussi beaucoup de contrebande. Mais la politique initiée par les Chinois, c'était effectivement de créer autour de ces ponts qui se trouvent tout au long de cette frontière des zones économiques françaises.
Michel Fouché, entre Chine et Corée du Nord, des intérêts bien compris?
C'est compliqué parce que le régime nord-coréen qui succède au vieux royaume de Koryo, l'unification de la péninsule coréenne, c'est quelque chose de récent et de chaotique sur la longue durée. Donc c'est un régime nationaliste, il se méfie de la Chine. Et il y a une irritation maintenant à Pékin sur la politique de la Corée du Nord. Bon, moi je suis pas du tout un spécialiste de cette zone, mais je crois comprendre qu'il y a eu des contacts entre les deux états-majors américains et chinois à Shenyang récemment, pour envisager toute une série d'options. Le problème de la Chine, c'est de desserrer l'étau de la présence militaire américaine, navale et terrestre. C'est d'éviter un scénario catastrophe avec des millions de réfugiés. C'est d'éviter des contaminations liées aux expériences nucléaires dans les populations chinoises extrêmement nombreuses, parce que la surveillance de l'Internet montre que maintenant il y a une inquiétude dans les provinces frontières dans le nord de la Chine. Et ils sont obligés d'en tenir compte. Et il y a enfin débat dans les plus hautes instances du Parti communiste chinois sur la politique à adopter. Donc je crois que les choses ne sont pas nouées. Une Corée réunifiée ne gênerait pas la Chine, à condition qu'il ne se passe pas dans la péninsule ce qui s'est passé en Europe centrale et orientale avec l'extension de l'OTAN après la fin de la guerre froide. C'est ça le problème. Ça se négocie.
Alors, le pont signe des temps, Alexandra Novoselov, quand les États sont en pleine croissance, ils construisent des ponts, quand il y a déclin ou danger, on construit des murs. Je voudrais qu'on aborde ce qu'on évoquait précédemment, la frontière entre l'Afghanistan et le Tadjikistan, des ponts un petit peu partout, et des ponts tout à fait récents. Ils sont nés en 2000 et dans la voilà dans les années qui ont suivi et qui nous séparent de l'an 2000. Il se passe donc quelque chose à cette frontière et on va parler de la Chine.
Oui, ça fait partie des régions qui sont regardées de très près par la Chine parce que elles sont considérées comme des régions d'extension des routes commerciales qui sont encore relativement peu explorées parce que il y avait quand même une instabilité sécuritaire assez grande et que bon la politique chinoise, c'est aussi de stabiliser par l'économie, par le commerce. Donc il y a énormément d'investissements qui sont faits au Tadjikistan et ailleurs, dans toute l'Asie centrale, qui reste encore un peu la dernière frontière du monde, si je puis dire. Quand je suis allée sur cette frontière, malheureusement, la frontière était fermée en raison de la reprise par les talibans de certaines villes le long de la frontière. Et on a vu à quel point ça compliquait énormément la vie des gens qui s'étaient habitués à ces ponts-là. Et ces ponts ont la caractéristique d'avoir à leur entrée un marché transfrontalier. Donc les Afghans vont échanger avec les Tadjiks des biens. C'est fait de manière relativement encadrée, mais c'est une source de diversification pour les Afghans notamment. C'est vrai que c'est à peu près les mêmes populations de part et d'autre, donc c'est une façon de renouer aussi avec l'autre côté qui a été séparé pendant longtemps. Donc tout ça est en train de changer. C'est vrai que la frontière était fermée, d'où les auditeurs pourront voir dans le livre ces marchés vides en fait, hein, mais parce que cette frontière était fermée pour cause d'insécurité.
Donc le pont vecteur de redécouverte de l'autre, là aussi. Michel Fouchin, commentaire ?
Non, surtout que souvent, pas toujours, mais ce sont des populations tadjiques des deux côtés qui sont un peu différents des autres populations, avec une langue qui est plus proche du persan. Et puis, vu de Chine, l'Afghanistan, c'est un territoire inexploré sur le plan des ressources minérales en particulier. Ce sont des montagnes extrêmement riches. Donc, il y a une vision un peu naïve de la Chine à l'égard de l'Afghanistan. Simplement, il faut d'abord faire un peu de politique et de médiation avant de pouvoir investir dans le cuivre de la région d'Aïnak. Mais il y a des plans très spectaculaires d'intégration du Tadjikistan, du sud de l'Ouzbékistan. L'Afghanistan est débouché sur l'océan Indien. C'est tout à fait intéressant de voir la vision chinoise des choses. C'est rafraîchissant.
Alors, la construction d'un mur, elle fait toujours beaucoup de bruit. Celle d'un pont peut-être un peu moins. Est-ce que finalement, on ne construit pas plus de ponts aujourd'hui que de murs dans le monde, Alexandra Novoselov?
Malheureusement, je pense que les ponts frontaliers, on pourrait en construire un peu plus. Par exemple, le pont en Côte d'Ivoire entre la Côte d'Ivoire et le Libéria sur la rivière Cavalli reste toujours à l'état de projet. Alors c'est vrai que en Crimée, l'annexion russe de la Crimée les a poussés à construire ce pont pour les relier à la Russie. Donc c'est souvent des raisons très politiques qui conduisent à accélérer le mouvement de construction des ponts. Il y a aussi quand vous arrivez en Sierra Leone à Freetown, c'est l'un des rares aéroports complètement coupé de la capitale du pays que vous devez rejoindre en bateau. Et là, on se dit qu'il faudrait avoir un pont. Pareil, c'est dans les cartons, mais pour l'instant, pas de moyens pour construire ce pont.
Alors, dans toujours cette question de construction de pont, il y a des aberrations. On peut en citer quelques-unes, des ponts nouvellement construits qui ne sont jamais utilisés. Et puis, je repense encore à la Corée du Nord, Alexandra Novoselov, c'est la construction d'un pont parallèlement à ce qu'on appelle le pont brisé, qui est le symbole de la guerre de Corée et qui n'a jamais été poursuivi, repris. Donc on construit à côté, alors comme pour laisser aussi une trace, Michel Fouché.
Non, il y a une nécessité commerciale, et en effet, puis c'est peut-être plus simple de construire autre chose avec les techniques quand même de construction ont un peu évolué, notamment avec l'utilisation de métal, de haubans, etc. Mais la dimension politique est toujours extrêmement importante quand il s'agit de ponts transfrontaliers. Alors il y a un exemple de friche, en quelque sorte, c'est le fameux pont sur l'Oyapock entre le Brésil et la Guyane. Donc la France, construit d'ailleurs par une entreprise brésilienne, parce qu'il y a de grosses entreprises de travaux publics au Brésil, bien
oui,
sûr,
bien.
Compte tenu de la taille du pays, mais comme il n'y a pas d'accord de cogestion des flux migratoires du Brésil vers la Guyane, le pont est fermé. Mais c'était le symbole, justement, du lien entre Jacques Chirac, très sensible aux leaders des pays émergents, et le président Lula, puis de Sarkozy avec Dilma Rousseff, parce qu'on espérait bien, en échange, vendre beaucoup d'autres choses au Brésil. Donc là, il y a un gâchis extraordinaire, mais parce que, en fait, il y a une dissymétrie entre le dynamisme économique et démographique du côté de l'Amapá brésilien et la langueur qu'on trouve à Saint-Georges de l'Oyapock. Et là, il y a quelque chose de tout à fait intéressant à approfondir.
Alexandra Novoselov.
Oui, sur les ponts entre Chine et Corée du Nord. Alors c'est vrai que les autorités chinoises n'ont pas voulu reconstruire le pont brisé pour en faire un lieu de mémoire. En réalité, il y a plusieurs ponts comme ça sur cette frontière qui sont des lieux de mémoire très visités par les touristes chinois. Il y a un pont qui a été construit de manière tout à fait récente en 2013. Énorme, qui fait 5 km de long, avec des haubans, etc., à 5 km au sud du pont de l'Amitié, et qui est à ce jour fermé, parce que, côté nord-coréen, ils n'ont pas fait les travaux nécessaires pour continuer la route, en réalité, pour relier la route terrestre au pont, et c'est notamment à cause justement des liens très tendus entre Chine et Corée du Nord, avec les partisans d'une voie chinoise qui ne sont plus en odeur de sainteté auprès du leader nord-coréen. Donc vous voyez que ça se reflète sur le terrain au niveau de ce pont qui a été construit, qui a coûté je ne sais plus combien de millions de dollars, avec tout un quartier autour qui devait être le grand centre financier, le grand nouveau centre financier, et qui est complètement laissé en friche là aussi.
Michel Serres parle beaucoup de symboles, mais ce que vient de dire Alexandra Novoselov, c'est le pont est un symptôme. Fermé, ouvert, c'est un symptôme, je dirais, tellement évident, ça ne trompe pas, parce que c'est tout de suite là que ça se porte.
Ouais.
Donc là, l'articulation entre le centre et la périphérie, le pouvoir central et le local, la décision est appliquée immédiatement. C'est tellement facile de fermer un pont, ou de l'ouvrir. Donc c'est le symptôme de l'état d'une relation entre deux pays voisins.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Alexandra Novoselov, politologue, chercheuse invitée à l'International Peace Institute de New York. Également chercheuse associée au Centre Thucydide de l'Université de Paris Panthéon Assas et auteur donc de cet ouvrage « Des ponts entre les hommes » qui vient de paraître aux éditions du CNRS, c'est Presse des ponts. Et Michel Fouché, spécialiste des frontières, géographe et diplomate, titulaire de la chaire de Géopolitique appliquée au Collège d'études mondiales et auteur de « Le retour des frontières » aux éditions du CNRS. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À très bientôt.
Vous souhaitez réécouter Géopolitique ? Rendez-vous sur RFI.fr.